quand je vous colle chez moi aussi, dans ma maison, je suis content aussi de moi. Il n'y a personne pour m'encourager. Alors, on est content de se confirmer là, on est debout devant notre bienfait, déjà. Ah, bien, oui. Donc, c'est pas mon métier, mais je le fais quand même. Nous avons besoin de ça. Et je m'appelle à Pâques. Nous avons un petit déjeuner de Pâques, dans l'église de Moissy. Ça commence à 9h du matin. Et il y a des sœurs dans l'église qui méritent des encouragements et qui veulent des encouragements. Et cette sœur a préparé depuis 7h du matin des tables, des bols, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Et elle avait besoin de ça. Elle n'a pas demandé, mais nous savons, la façon qu'elle fait, elle a besoin d'encouragement. Donc elle a fait un petit SMS en disant c'était bon ce que tu as fait. Elle est contente. Il y a des personnes qui viennent nettoyer l'église qui sont contentes de cet encouragement. Et alors donc, nous devons nous encourager ce matin par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous encourage. Et l'apôtre Paul l'a fait dans l'église de Philippe, l'église de Philippiens, nous allons ouvrir ensemble Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 14. Philippiens 4, verset 1 jusqu'au verset 14. C'est pourquoi, bien aimé et très cher frère, vous qui êtes ma joie et ma couronne, je me mets ainsi d'aime dans le Seigneur, ma bien-aimée. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'honneur, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez, et pensez renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma défaite. Et nous allons prier. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as béni toute la semaine, tu nous as gardé protégés. Nous voulons que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous un culte qui te soit agréable. Permets, Seigneur, que nous puissions te saluer, que nous puissions te louer. Merci parce que tu nous as donné cette connaissance, cette boussole qui est ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions la méditer ensemble ce matin. Au nom de Jésus, que tu as prié et que tu as gloire. Amen. Dans ce chapitre de Philippiens, Paul est en train d'encourager les frères et sœurs de Philippe. Et dans le verset 4, il commence par dire quelque chose de merveilleux. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et dans le verset 16, il parle d'autres choses lui parlent de la force. Je puis tout par celui qui me sanctifie. Déjà, vous avez bien vu que l'apôtre Paul, dans ce chapitre 2, avait commencé avec les Philippiens, au chapitre 2, et il avait commencé par dire d'avoir les mêmes sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Le chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Vous voyez que dans ce verset, c'est le parfait exemple de l'humilité de l'homme, Christ Jésus, pour amener les chrétiens à avoir le même sentiment. Ce n'est pas toujours facile d'avoir les mêmes sentiments le dimanche matin, chacun de nous. Nous avons des sentiments qui partent. Nous écoutons le message, mais après nos sentiments, après nos pensées partent ailleurs. Mais l'apôtre Paul recommande aux Philippiens d'avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et dans le chapitre 3, nos regards sont dirigés vers Christ exalté dans sa gloire. Comme Seigneur, tous ceux qui partagent cette espérance ayant le même but, les a appelés à marcher de même pas. Verset 16. Chapitre 3, verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé chez vous le défilé du 14 juillet, comment les hommes marchent de même pas. Et sauf que la Légion étrangère sont en train de marcher d'une autre façon, mais c'est la seule armée que j'aime voir. Marchons d'une même pas, d'un même pas. C'est ça que l'apôtre Paul voudrait encourager les Philippiens d'avoir les mêmes sentiments et de marcher de même pas. Et au chapitre 4, là où nous allons voir notre message de ce matin, Paul amène les Philippiens à un but de sa lettre. Il leur présente aussi Christ comme étant leur joie et leur force. Nous avons lu le verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours ». Et le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul, le thème de mon message, c'est Christ, notre joie et notre force. Christ est toujours notre joie et notre force. Et vous avez bien vu dans ce premier point que je vais voir avec vous ce matin, comme chose, il dit dans le verset 1er du chapitre 4, c'est pourquoi les bien-aimés, très frères, chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme. Le premier point ce matin, c'est demeurer ainsi ferme dans le Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot qu'il a prononcé au verset 1er. C'est pourquoi. Il nous rappelle un peu ce qu'il a dit au chapitre 3, à partir du verset 17. C'est pourquoi. Alors, à partir du verset 17 au chapitre 3, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'à aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ils ont dit quelque chose de formidable, vous qui êtes ma joie, et ma couronne. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Je suis en train de penser ce matin, si Nicolas Bianco était là, notre pasteur, et il vous dit, il allait vous dire ce matin, vous êtes ma joie et ma couronne. On s'est content d'entendre Nicolas dire ça. Vous êtes ma joie et ma couronne. Mais pour cela, il va vous dire, mais demeurez ferme. Résistez. Résistez. Comme l'apôtre Paul nous dit au chapitre 3, verset 17, verset 22. C'est pas facile de résister. C'est facile de basculer d'un côté ou de l'autre. C'est pas facile de demeurer en Christ. C'est pas facile de demeurer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous êtes ma joie et ma couronne. Et nous voyons quand même dans cette affection que l'apôtre Paul avait pour les Philippiens, parce qu'il portait les Philippiens dans son cœur. Et il révèle en plus son amour et son désir de les voir. Ainsi, il a même dit au chapitre 1er, au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il est chéri, mais avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il pouvait un amour pour les filles. Ça veut dire que, naturellement, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un de naturel, quelqu'un qui aimait les frères et sœurs de Philippe. Et là, il nous encourage aussi de nous aimer, parce que nous sommes la joie et la couronne de Dieu. Vous êtes ma joie et ma couronne. Mais bien-aimé, quand il parle de bien-aimé, c'est une affection. Quelqu'un qui aime, aidé à demeurer ferme dans le Seigneur. Même dans le chapitre 1, verset 27, il avait déjà dit, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que ce quoi, que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » C'est ce qu'il veut, demeurer ferme dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes invités ce matin à demeurer fermes dans la foi. Dans 1 Corinthiens 16, verset 13, il nous dit « Veuillez demeurer fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Demeurez fermes. » Vous savez que j'ai travaillé à la SNCF pendant 27 ans. Peut-être que quand vous prenez le train, vous ne faites pas attention, mais quand vous voyez ces feux qui sont à demeure, il y a un feu là qui reste toujours clignotant rouge. C'est-à-dire, ça s'appelle le sémaphore, le jargon SNCF, mais c'est un feu qui demeure toujours, on ne peut pas l'enlever, puisque ça signale qu'il y a des trains devant. Alors, on ne peut pas enlever ce feu-là, dans ça. Il est à demeure. Et je pense que le Seigneur voudrait que nous demeurons comme ça, mais ce n'est pas facile. Et la première chose, c'est veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Nous avons besoin que quelqu'un ou quelqu'un qui prie pour nous, qui nous fortifie, parce que Dieu nous fortifie en Jésus-Christ. Et Dieu nous demande ce matin de demeurer ferme dans quoi? Dans la liberté dans laquelle Christ nous a placés. Puisqu'il le dit dans Galates 7, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous le joug de quelqu'un. Demeurez ferme. Et il dit aussi, bien aimés frères et sœurs, de demeurer dans les enseignements de la parole. Demeurez ferme aussi dans les enseignements de la parole. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15, ainsi donc, frères, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par notre parole, soit par nos fenêtres. Demeurer veut dire continuer d'être dans un état déterminé. C'est ça que ça veut dire. Faire. S'arrêter, s'attarder, rester, persister. Persister de ne rien faire. Puisque, il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens, vous êtes ma joie et ma couronne. Alors, que ne rien faire. Je me suis demandé, si nous ne demeurons pas fermes, est-ce que nous sommes la joie et la couronne de l'apôtre Paul ou de Dieu? Non. C'est pour cela, si nous voulons être la joie et la couronne, alors je me rends ferme. Et la couronne, c'est un athlète ou un cycliste qui a fait de la course et vainqueur, gagne la couronne ou la coupe. Et bien nous avons quelque chose qui nous attend dans le ciel si nous demeurons fermes. C'est ce que l'apôtre Paul nous implique. Aux Philippiens, demeurez ferme. C'était le premier point que j'ai vu et que je vois avec vous ce matin. Et le deuxième, c'est avoir, deuxième chose, avoir une même pensée dans le Seigneur. avoir une même pensée dans le Seigneur. C'est à partir du verset 2. Nous voyons ces deux femmes. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tich à être de même sentiment dans le Seigneur. Avoir le même sentiment dans le Seigneur. Mais vous voyez bien qu'il y avait un petit problème entre ces deux femmes pieuses. Et Évodie et Saint-Tich avaient combattu avec Paul pour l'évangile. Mais sous l'effet de la chair, elles m'ont fait une divergence de pensée. Ça arrive dans chaque église, dans n'importe quelle église. C'est une difficulté, frères et sœurs, qui pouvait engendrer beaucoup de souffrance et de faiblesse parmi les saints de Philippe. Deux sœurs qui ne s'entendent pas à cause d'une petite difficulté. Il est bien dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tich à être de même sentiment dans le Seigneur. Ça arrive d'avoir des difficultés, d'avoir quelque chose avec une sœur ou un frère. Et là, avec délicatesse, l'apôtre Paul adresse donc un appel personnel à chacune des deux sœurs, sans prendre parti, pour l'une ou contre l'autre. Ça fait bien. Il a dit Évodie, ben, pourquoi t'as dit ça à Saint-Tich, ou Saint-Tich, pourquoi t'as dit ça à Évodie. Il n'a pas pris parti devant ces deux sœurs. Et ils ont dit d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Et au verset 3, nous voyons bien que Paul sollicite à ce sujet un vrai compagnon de travail, peut-être probablement Épaphrodite, auteur de la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 28, même à partir du verset 25, quand il dit « J'estime nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Et à partir du verset 28, il dit « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez et de le revoir et que, vous, et que je sois moi-même mon fils. » Il a envoyé ce frère pour aider ses deux sœurs à s'entendre. Il lui a demandé à ce frère d'être une aide pour régler ce différend entre ses deux sœurs. Vous savez comment on règle les problèmes dans l'église, c'est par la prière. Essayer de ne pas être reculé, Dieu ne nous demande pas ça, Dieu nous demande de ne pas donner les uns aux autres. Et ça peut arriver que ses deux sœurs ne s'entendent pas, mais après, en envoyant ce frère, je pense que c'est pas trop vite, ils ont peut-être eu cette grosse bonheur de s'entendre et d'avoir les mêmes pensées dans Jésus-Christ. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est Christ nos joies. Christ nos joies. La joie du Seigneur est ma force. Tout le monde connaît ça. La joie du Seigneur est ma force. Et la force est dans la joie du Seigneur. À partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dites que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous sommes invités, frères et sœurs, non seulement à nous réjouir dans le Seigneur, comme dit le chapitre 3, verset 1er, il dit « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Mais à nous réjouir toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur. Et d'avoir... Pourquoi? Parce que d'avoir été pardonné par le Seigneur qui nous aime. Vous pouvez nous réjouir de cela? Parce que Dieu nous aime de l'amour éternel. Un amour qui a triomphé du péché, de la mort et du mal sous toutes ses formes. Et les croyants reçoivent le commandement de faire de sorte que notre douceur soit connue de tous les hommes. C'est vrai que ce mot douceur me fait penser à bienveillance. Je ne pense pas, frères et sœurs, qu'il existe des vertus chrétiennes cachées ou invisibles. je pense que notre nature renouvelée de chrétien doit apparaître clairement. Notre nature de chrétien, notre nouvelle nature. Parce que nous sommes nés de nouveau et nous avons une nouvelle création. Nous sommes vraiment une nouvelle personne devant Christ. Nous devons quand même avoir cette joie en nous, cette réjouissance de le Seigneur, mais ce n'est pas toujours facile de se réjouir tous les jours, malgré les difficultés de la vie. Voyons bien dans ce verset 6, la résistance qu'il y a et la douceur sont difficiles en période d'angoisse ou en période de difficulté. En période de gilets jaunes, bien entendu, les gilets jaunes, ils sont en difficulté parce qu'ils veulent beaucoup de choses. Quand on leur donne, ils veulent encore plus. Et nous sommes, on ne fait pas de la politique, mais des fois nous sommes en difficulté, nous sommes angoissés. Et le Seigneur nous demande de nous réjouir. De nous réjouir. Attends, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une maladie, si j'ai à se réjouir ou non. Mais c'est là que nous devons prier. Le Seigneur nous demande de nous réjouir quand même. Et il nous dit de ne pas nous inquiéter. Et en présentant toutes choses à Dieu, avec des actions de grâce, pour la miséricorde et le pardon du Seigneur. Il le dit même dans le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Je me rappelle d'un frère qui a fait ses études à Nogent, et puis on était dans la voiture, on faisait une prière, on priait, parce qu'il n'avait pas encore reçu ses dons. On appelle, j'étais encore à l'église de Créteil, nous étions dans la voiture et nous avons prié. C'est vrai que moi, je n'ai pas reçu des dons, je ne sais pas comment faire. Moi, j'avais un peu de souffle, je lui ai donné. Et un jour, j'ai eu le téléphone en me disant, ah, ça y est, dans la boîte aux lettres, voilà, le Seigneur m'a fait du bien. Et voilà, j'ai reçu ce don et j'étais très content pour ce faire. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, de faire connaître de nos besoins à Christ. Et cela, ce n'est pas toujours facile, mais par la prière, Dieu pourvoit toute chose. Dieu, c'est un Dieu puissant. Il écoute nos prières et il nous répond. Peut-être que nous voulons la chose tout de suite, mais non. Mais il faut être patient. Vous êtes lié à l'acte 5, il faut être patient. Et Dieu nous répondra toujours. Il est là pour nous répondre. Et c'est ce que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et supplications, avec des actions de grâce. Et le quatrième point que je voudrais voir ce matin avec vous, c'est que avoir des pensées qui plaisent au Seigneur. Avoir des pensées qui plaisent au Seigneur. Des fois, nous n'avons pas des pensées qui plaisent au Seigneur. Je me rappelle, j'étais en vacances aux Antilles. Et puis j'écoutais le message à Bastien. Et puis tout d'un coup, c'était dans la période de la Coupe du Monde. Et je me suis souvenu à midi, il y a le match France-Brésil. France-Brésil. J'étais là, j'ai écouté le message, comme si j'écoutais pas le message. Ma pensée était partie en autre chose. Parce que je voulais voir ce match, j'ai dit, comment ça se fait que je fais là, il ne dit pas amen. Il est encore long. Et c'est ma pensée venue là-dessus. C'est pas ça que Dieu me demande. C'est pas ça que Dieu nous demande. Avoir des pensées qui plaisent au Seigneur. Peut-être que j'avais ce jour-là, pas une pensée qui plaisait au Seigneur, j'avais mon idée d'action. Et le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toutes ses habitants, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Et il dit au verset 8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite la compassion, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc, bien sûr, il disait que pour ne pas avoir des pensées qui divaguent, il faut lire la parole de Dieu. Et il a raison. Peut-être qu'il faut chanter, un chant que nous connaissons, comme ce matin, nous avons chanté des beaux chants. Hein. Peut-être un chant de Thierry Jackson, je ne sais pas, ou un chant de Barbara, comme ça, mais. Il faut avoir une pensée, il ne faut pas avoir ces pensées-là. Et ce qu'il disait, lisons la parole de Dieu, pour avoir les pensées qui sont. Et il disait qu'elle cultivera notre conscience, nous mettra en éveil si nous lisons la parole de Dieu, que nous avons des mauvaises pensées. Et la rendra capable de détecter tout ce qui est. et nous éclairera, nous éclairera de notre esprit de bonnes choses, nous montrera le bon chemin. Et pas, c'est ça qui met nos pensées en Jésus-Christ, lire la parole, et cette parole sera présente dans notre cœur, et sera une arme efficace pour nous, pour se dresser contre l'ennemi. C'est vrai que dans le psaume de 119, il dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. » Le psaume 119, et c'est des versets 11 et le verset 105 qui parlent de cela. Et Jean d'Ormesson, avant sa mort, il disait que « Comment ne pas penser sans cesse à l'amour de Dieu. Comment ne pas penser sans cesse à l'amour de Dieu. » Il avait raison de dire ça. Comment ne pas penser à l'amour de Dieu? Comment ne pas penser à ce que Dieu a fait pour nous? Comment, depuis 40 ans que je suis chrétien, depuis 45 ans que je suis converti et baptisé, ça a fait presque 50 ans, comment ne pas penser à l'amour de Dieu? Je ne dis pas que dans mon cheminement, je n'ai pas eu des faiblesses. Si chacun de nous façon voit ça, pas des faiblesses, mais Dieu nous demande de me référer et Dieu nous donne, nous permet d'être capable de prier, de remonter la pente. C'est peut-être difficile, mais nous remontons la pente. Paul recommande aux chrétiens de se concentrer sur ce qui plaît à Dieu. Et on voit bien ça dans le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il est fort ce verset-là. Il dit, ce que vous avez reçu, appris, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Il parle de la parole. Ce que vous avez entendu, et ce que vous avez reçu, la parole de Dieu, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est un engagement près de cela, dans chacun de nous, dans chacun de nous. Et encouragé par la parole de Dieu, d'être encouragé par la méditation de sa parole, d'être à l'écoute de Dieu et de pratiquer ce que Dieu nous demande dans sa parole. Avoir des pensées qui plaisent au Seigneur. Et en conclusion, je vais voir avec vous ce septième point qui va conclure notre message de ce matin. Christ, notre force. Christ est notre force. Christ, notre force. À partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie pour le Seigneur de ce que vous avez pu enfin relever l'expression de nos sentiments, de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien? Mais l'occasion vous manquait. Qu'est-ce qu'il dit encore à l'apôtre Paul? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, quand j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Qui c'est qui peut dire ça? Je trouve des contents dans l'état où je me trouve. Les fois, nous sommes pas contents de nous, hein, mais l'apôtre Paul dit je suis content dans l'état où je me trouve. Des fois, je ne suis pas content de moi. Je ne veux pas dire que je suis content de l'état où je me trouve. Il faut prier. Il y a pas pourquoi dire je suis content de l'état où je me trouve. Il dit pourquoi. Au verset 12, hein. Il le dit pourquoi. Je saisis, non, dans l'humiliation. Je saisis, non, dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça ne faisait rien du tout, hein, de vivre sans argent, de vivre avec ce qu'il avait. Et nous cherchons, midi à 14h, nous cherchons ce que nous n'avons pas. Des fois, nous demandons au Seigneur ce que nous avons déjà. Et le Seigneur tarde à nous donner. Il dit, c'est vivre comme ça, dans la pauvreté, dans la disette. Et j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Qu'est-ce que nous pensons à ces versets-là, nous disons, ben, que le Seigneur soit glorifié. Parce que nous avons de quoi manger, nous avons de quoi nous nourrir, nous avons de quoi nous revêtir. C'est Certes, il y a des frères et sœurs qui sont dans le chômage, le confinés, pour qu'ils puissent trouver un travail. Ils sont dans les difficultés, mais il a appris à être comme ça, à être comme il est. Soit dans l'abondance, soit dans la disette. C'est pour ça que le Seigneur est sa force, puisqu'il le dit au verset 13, « Je suis tout par celui qui me fortifie. » Nous sommes contents d'avoir un Seigneur sauveur qui nous fortifie. Ces quelques versets, je pense que l'apôtre Paul semble être en mesure de se placer au-dessus de toutes les circonstances. Voyons bien dans ces versets qu'il a rejeté tous ses soucis sur Dieu. Et voyons bien dans ces versets qu'il peut se réjouir de ce qu'il a mis son amour dans le cœur des Philippiens. Il a mis son amour dans le cœur des Philippiens. Il s'est rassasié de voir les Philippiens avancer pour le Seigneur. Et tellement que l'Église des Philippiens étaient contents, ils ont pris part à son affliction. Et les Philippiens l'ont aidé à subvenir à ses besoins. C'est vrai que Paul a apprécié dans ses versets le sacrifice consenti par les saints de Philippe. L'amour qui les avait conduits à penser à l'apôtre Paul était reçu par Dieu comme un fruit précieux. Les Philippiens ont subvenu aux besoins de l'apôtre Paul. Ils l'ont aidé dans son affliction. Le verset 18 de ce même chapitre 4 nous dit « J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis la personne qui suit alors. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quel bonheur que j'ai essayé d'être Jésus-Christ, quel bonheur d'être chrétien. J'ai tout reçu, j'en ai besoin, je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin, il a été comblé. C'est vrai que le Seigneur nous bénit chaque jour, mais aujourd'hui, si nous demeurons fermes dans la foi, si nous devons avoir une même pensée dans le Seigneur, et vous savez que Christ est notre joie, et avoir aussi, frères et sœurs, des pensées qui plaisent au Seigneur. Et enfin, Christ est notre joie. Christ est notre force. Le Seigneur, c'est plutôt dans celui qui me fortifie. Depuis tout, en celui qui me fortifie.